L'émission que vous allez suivre maintenant n'est pas un direct. C'est une rediffusion.
Dernier appel pour les passagers du vol 3 Airlines. Prière de se présenter à l'antre de la Vibe. Embarquement immédiat. Choisissez votre place et installez-vous confortablement.
Classico. Classico. Votre émission qui traite des questions d'économie, d'entrepreneuriat et d'innovation. Et d'innovation. Classico, c'est le rendez-vous pour vous qui voulez construire le Cameroun. Classico, de lundi à vendredi, entre 10h et 12h, avec Nadine Enonguet.
Bonjour à tous, bon début de semaine. Est-ce que vous êtes prêts pour les nouvelles destinations que nous allons rallier cette semaine? Je l'espère en tout cas. Économie, entrepreneuriat, innovation sont toujours au menu. Merci à tous d'être un peu plus nombreux chaque jour à faire partie de ce voyage. Merci à ceux qui ont déjà téléchargé l'application Volume 3 Cameroun disponible sur Play Store. Merci à ceux qui nous écoutent également sur www.volume3media.com. Pour ceux qui ont leur poste de radio, ne zappez surtout pas, rester sur 87.9. Et une fois de plus, bienvenue en Classico. Voici notre plan de vol pour ce lundi.
Aujourd'hui en classe éco avec notre expert, on s'intéresse à la levée des fonds. On va parler de menuiserie métallique avec notre passager du jour, Aubin Ernest Sonin. Au marché, on va jeter un coup d'œil sur le prix de la tomate. Nous ferons escale dans le quotidien de Bolo, il est peintre. Et qui est pour apprendre la pisciculture, c'est l'innovation du jour. Et l'Afrique économie nous amène aux Comores où les efforts se multiplient pour soutenir les jeunes entrepreneurs.
Bonjour et bienvenue une fois de plus, c'est un plaisir de vous retrouver sur Volume 3 chaque jour pour partager des vols à la hauteur de vos attentes, je l'espère. Et le lundi donc, avec les Sparties, on parle d'économie. Aujourd'hui, on fait un petit focus sur la levée de fonds parce que ça se multiplie un tout petit peu. Qu'est-ce que c'est? Comment c'est encadré au Cameroun? Et surtout, quelles sont les précautions à prendre avant de se lancer? Élément de réponse ce matin avec notre expert économie, Lucas Ayé.
L'expert dans Classico. Dans Classico.
Nadine, pour répondre à votre question, il devait savoir que la levée de fonds est une expression décrivant tous les outils et ainsi que les méthodes de transactions financières qui fait appel nécessairement à un grand nombre de personnes pour financer un projet. Elle s'appliquerait généralement à une organisation à but non lucratif ou à but lucratif. Donc, la levée de fonds est une opération qui consisterait de façon inévitable à collecter des fonds ou des ressources financières auprès de différentes sources dans la perspective de financer un projet, de financer un projet entrepreneurial, c'est-à-dire une entreprise, une organisation ou une initiative. Et cette activité peut se faire de diverses manières, notamment à travers un investissement, à travers des dons et subventions, à travers des prêts et emprunts et à travers le crowdfunding, c'est-à-dire le financement participatif et même à travers des appels à projets. Maintenant, de façon précise, toujours dans le même ordre d'idée et dans le moindre détail, lorsqu'il s'agit du financement, ici les investisseurs tels que les actionnaires, les capital risqueurs ou les business angels fournissent des fonds en échange des parts ou d'actions dans l'entreprise, mais qui auraient exprimé le besoin de financement. Et lorsqu'il s'agit des dons et subventions, ces derniers proviennent ou proviendraient des individus de fondations ou d'organisations qui soutiennent une cause ou un projet spécifique. Mais dans le cas spécifique des prêts d'emprunt et emprunts, les auditeurs doivent retenir qu'ici, les prêts bancaires, par exemple, et les emprunts obligataires ou les prêts à court terme et même à long terme, au moyen terme, peuvent être utilisés pour financer des projets ou des activités. Mais s'agissant par exemple du crowdfunding qui signifierait le financement participatif, il est question ici pour de nombreuses personnes de contribuer à concurrence de petites sommes d'argent pour soutenir un projet ou une idée. Et en dernier ressort, dans le cas par exemple des appels à projets, les organisations et les institutions lanceraient donc des appels à projets pour financer des initiatives spécifiques. Lorsque nous avions dit que la levée des fonds peut être utilisé pour plusieurs raisons, notamment le lancement d'une entreprise, le développement d'un projet, le soutien à une cause ainsi que le financement de la recherche. Donc, de façon précise, pour financer particulièrement le démarrage d'une nouvelle entreprise ou d'un nouveau projet, une levée de fonds peut être initiée. Et les autorités devraient savoir également que Nadine, pour financer la mise en œuvre ou l'implémentation d'un projet, d'une initiative, l'on peut recourir au financement. Alors, une levée de fonds autant pour nous, mais ceci dans la perspective de lever particulièrement le projet. Et la levée des fonds aussi est mise en exergue pour collecter des fonds pour une cause sociale, environnementale ou humaine. Et elle contribuerait également au financement des projets de recherche ou des études spécifiques. Donc, de facto, les auteurs doivent savoir que la levée des fonds nécessite souvent une stratégie bien définie, une communication efficace et une gestion rigoureuse des ressources mobilisées pour atteindre les objectifs fixés. Mais il est aussi important que Nadine, dans le cadre du Cameroun, l'apport macroéconomique de la levée de fonds est notable, particulièrement dans le soutien destiné aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'au secteur informel. Et beaucoup d'exemples illustrent cet apport macroéconomique de la levée de fonds, notamment nous avons la levée par exemple des fonds pour les petites et moyennes entreprises et même les très petites entreprises. Et à cet effet, on peut citer l'opération de levée de fonds estimée à 10 milliards de francs qui serait prévu en 2025 par le biais des Inclusive Bank édicées par FinAfrique et ACEP Cameroun. Et cette initiative vise à financer 1000 très petites et petites moyennes entreprises opérant dans le domaine de la transformation artisanale et du commerce transfrontalier avec des prêts moyens estimés à 10 millions de francs CFA par bénéficiaire. Il y a également, en guise d'illustration ou d'exemple, nous évoquons également la plus haute secteur informel, comme nous l'avions dit. Et à cet effet, Nadine, il est important que les auteurs retiennent que les Inclusive Bank, dans ce cas, viserait à améliorer l'accès au financement des couches entrepreneuriales vulnérables, en particulier les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises, sans toutefois ignorer les entreprises du secteur informel. Et le consortium des initiateurs du projet garantirait 70% des prêts accordés aux bénéficiaires, tandis que ACEP Cameroun garantirait les 30% restants. Donc, toujours à titre d'illustration d'exemple, la levée de fonds peut également servir au Cameroun à financer des projets spécifiques comme ceux liés au développement économique ou à l'amélioration des infrastructures. Et selon les données disponibles, des initiatives et illustrant la levée de fonds pourrait avoir un impact positif sur l'économie camerounaise en favorisant la croissance des entreprises locales et en créant des emplois, de façon assez implicite en améliorant également le bien-être collectif au moyen de l'animation économique, surtout au niveau local. Mais dans le même ordre d'idée, Nadine, pour information, les auteurs doivent savoir qu'en fait, les Inclusive Bonds sont des obligations financières innovantes conçues pour soutenir les petites et moyennes entreprises ainsi que les très petites entreprises établies ou installées dans les pays en développement. Ces obligations visent surtout à promouvoir l'inclusion financière et le développement économique de ces pays tout en fournissant des fonds à des entreprises qui ont du mal à accéder au financement traditionnel. Donc les Inclusive Bonds fonctionnent de diverses manières, notamment à travers l'émission des obligations, l'utilisation des fonds et la garantie, sans oublier le rendement. Mais maintenant, de façon assez précise, c'est fait, une institution financière émet des obligations qui sont achetées par des investisseurs. Et là, il s'agit de l'émission d'obligations. Et les fonds collectés sont souvent utilisés pour financer des petites et moyennes entreprises ainsi que les très petites entreprises qui répondraient à certains caractères, à certains critères autant pour nous, Nadine, tels que la taille, le secteur d'activité, le potentiel de croissance. Et toujours dans le même ordre d'idée, Les obligations sont souvent garanties par une institution financière ou un organisme de garantie, ce qui semble réduire le risque pour les investisseurs. Et en dernier ressort, les investisseurs reçoivent ou recevraient un rendement sur leur investissement qui peut être fixe ou variable. Donc, de facto, les inclusive bonds offriraient plusieurs avantages, notamment liés au confondu à l'accès au financement, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises ainsi que les très petites entreprises peuvent accéder à des fonds qui leur seraient autrement inaccessibles. Et les inclusive bonds contribueraient au développement économique en soutenant les entreprises qui créeraient des emplois qui stimuleraient l'activité économique. Et toujours dans le même ordre, les investisseurs peuvent soutenir des entreprises qui ont un impact positif sur la société et l'environnement. Cependant, ces inclusive bonds, Nadine, présenteraient également des défis et risques tels que les risques de défaut. Donc, en résumé, les inclusive bonds qui sont considérés comme étant un outil financier innovant qui peut aider à promouvoir l'inclusion financière, le développement économique en soutenant les petites et moyennes entreprises sans oublier les très petites entreprises disponibles ou établies dans le contexte camerounais. Cependant, il est important aussi de gérer les risques et les défis associés à ces obligations pour garantir leur succès dans le cadre d'une levée de fonds. Et il convient également ici de noter l'efficacité de ces initiatives qui dépendraient de leur mise en œuvre et de leur gestion. Les résultats attendus incluraient sûrement une amélioration de l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises ainsi que le secteur informel camerounais, ainsi qu'une contribution, il faut le dire, à la croissance économique de notre pays. Et c'est justement pour cette raison que pour que la levée de fonds soit effective et connaisse un succès et puis soit structuré. Il existe des instances et les bases réglementées qui régissent l'activité de la levée des fonds au Cameroun. Nous pouvons citer par exemple la commission des marchés financiers qui est un organe de régulation des marchés financiers au Cameroun qui supervise et réglemente les opérations de levée des fonds. Il y a également le ministère des Finances qui joue un rôle clé dans la régulation des activités financières, y compris la levée des fonds. Et toujours dans même hors d'idée, il faut citer la loi numéro 2017-019 du 24 décembre 2017 qui fixe les règles applicables aux opérations de levée de fonds sur le territoire camerounais et sans oublier la réglementation de l'OAD, c'est-à-dire l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, dont le Cameroun est membre. Et les entreprises qui lèvent les fonds doivent respecter les normes comptables et financières établies par cette organisation. Et en dernier ressort, il faut aussi évoquer l'existence de l'autorité de régulation des marchés publics, qui est notamment l'ARMP, qui réglemente les marchés publics et les délégations de services publics, ce qui peut ou pourrait inclure des opérations de levée de fonds pour des projets publics. Donc, Nadine, lorsque nous avons dit les auteurs au détour de volume 3, doivent savoir que ces instances et bases réglementées travaillent ensemble pour garantir que les opérations de levée de fonds soient menée de manière transparente, sécurisée, équitable et que les investisseurs soient protégés. Bon, maintenant, lorsque nous avions dit quelles sont les préoccupations avant de se lancer, notamment à cette question, Nadine, il est important que les auditeurs et auditrices de l'Union retiennent que notre contexte étant devenu avec le temps une arène de promotion et de consolidation de la maltraitance et de l'humiliation des ressources humaines à mobiliser pour le développement des affaires. Avant de se lancer dans un projet de levée de fonds, il est essentiel pour tout porteur de projet de prendre certaines préparations tant au niveau de la maturation du projet de la levée des fonds qu'au niveau de la mobilisation des ressources humaines appropriées de ce type de projet afin de garantir le succès de Midibus. Bon, au niveau de la structuration et la maturation du projet de la levée des fonds, quelques préoccupations sont à considérer, notamment définir de façon assez claire le projet en s'assurant d'avoir une vision claire et détaillée du projet, y compris les objectifs le budget ainsi que le plan d'exécution et procéder de façon assez effective à une évaluation des besoins financiers. Cela signifie qu'ici, il faut déterminer précisément les fonds nécessaires pour le projet et évaluer les différentes options de financement disponibles. Et toujours en même ordre, il faut préparer un plan d'affaires solide. Et à cet effet, comme nous l'avions dit, il faut élaborer un plan d'affaires complet qui décrit le projet, son potentiel de croissance, ses projections financières et sa stratégie de remboursement. Et étudier ainsi des options de financement, c'est-à-dire, à cet effet, les auditeurs doivent tout simplement savoir que s'il est question de rechercher et évaluer les différentes options de financement disponibles, telles que les prêts bancaires, les investissements en capital risque, les subventions et dons, ou les plateformes de crowdfunding, c'est-à-dire le financement de type participatif, et étudier les risques, c'est-à-dire de façon assez simple, identifier les risques potentiels associés au projet et à la levée des fonds, et élaborer les stratégies pour les stratégies d'atténuation. Et il faut aussi préparer les documents essentiels, parce qu'en réalité, ici, Nadine, les questions d'assurer d'avoir tous les documents nécessaires pour la levée des fonds, tels que les statuts de la société, les états financiers, les projections financières, le tableau de bord prospectif et bien d'autres. Les études de faisabilité du projet et choisir des bons partenaires, parce qu'en réalité, il est important de sélectionner des partenaires financiers et des conseillers qui ont une bonne compréhension du projet et des besoins, et s'assurer de la transparence et de la communication. Donc, à cet effet, il est bon d'être transparent et d'exprimer, de partager avec les investisseurs, échanger avec les investisseurs et partenaires sur l'avancement du projet et les résultats financiers. Mais il faut également procéder, s'assurer de respecter toutes les réglementations ainsi que les lois applicables à l'élevé de fonds dans le pays ou la région. Et en définitive, avoir un plan de sortie qui devrait être défini de façon assez claire pour les investisseurs et qui même devrait décrire comment ces derniers pourront récupérer leur investissement et réaliser des bénéfices. Donc, au niveau de la mobilisation des ressources humaines appropriées, surtout les experts ou consultants y assimilés, il est bon de savoir qu'il est souvent nécessaire pour un porteur de projet qui se lance dans une levée de fonds de se faire accompagner par un expert. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les experts possèdent des compétences et des connaissances spécifiques qui peuvent aider à améliorer la qualité du projet et à résoudre les problèmes complexes. Ces derniers peuvent également apporter une perspective objective indépendante qui peut aider à identifier des opportunités et des risques que le porteur de projet pourrait ne pas voir. Et les experts ont souvent une expérience significative dans leur domaine, ce qui peut aider à éviter les erreurs courantes et à trouver des solutions efficaces et efficientes. Mais cependant, il est important, Nadine, de gérer les experts ainsi que, y compris toutes les ressources humaines mobilisées de manière appropriée pour garantir une collaboration productive et respectueuse. Et lorsque nous l'avions dit, surtout parce que nous sommes dans un contexte très risqué, alors nous devons, Nadine, éviter la maltraitance des ressources humaines comme c'est devenu courant dans notre contexte. Donc, il est important de gérer les experts ainsi que toutes les ressources mobilisées dans le cadre du projet de fonds de manière respectueuse et professionnelle afin de garantir une collaboration efficace et productive. Donc, en prenant ces préoccupations, Nadine, je pense que nous pouvons augmenter nos chances de succès dans un projet de levée de fonds et garantir que ce projet est bien positionné pour la croissance et le développement économique, voire même holistique, de notre région ou de notre pays.
L'expert dans Classico. Dans Classico. Plus besoin de radio seulement. Tu peux continuer d'écouter ton émission préférée via l'application Volume 3 Cameroun. Volume 3 Cameroun. Classico, l'aéroport de l'économie, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Le passager du jour dans Classico.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez seulement maintenant. Vous êtes à l'écoute de Classico, le programme dans lequel on parle d'économie, d'entrepreneuriat et d'innovation, de lundi à jeudi entre 10h et 12h sur volume 3. À un peu plus de 10h et 33 minutes, il est temps de recevoir notre passager du jour aujourd'hui. On va parler de menuiserie métallique. Je vous laisse découvrir qui est notre passager du jour. On revient juste après pour discuter avec lui.
Notre passager du jour a étudié la soudure, la chaudronnerie. Il s'illustre aujourd'hui dans la menuiserie métallique avec des créations qui ravissent plus d'un. Il a même été récemment désigné meilleur fabricant de meubles en fer de la sous-région Afrique centrale. Ce parcours qu'il forge à force de son poignet et de sa capacité à s'adapter nous intéresse aujourd'hui. Classe Eco a le plaisir de recevoir Sona Ernest Aubin, promoteur de Metal Décor. Bienvenue à bord.
Nous avons donc le plaisir de recevoir aujourd'hui Sona Ernest Aubin, qui est le promoteur de Metal Décor. Je ne sais pas s'il faut ajouter le CAM pour que ce soit exactement ça. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue chez Volume 3.
Merci.
Ah, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui parce que on va dire que la menuiserie métallique, vraiment entre métallurgie et tout ça, j'espère que je vais m'en sortir aujourd'hui. En tout cas, avec vous, on va faire beaucoup d'éducation sur ces aspects-là parce qu'on en parle pas souvent. Donc, on commence une fois parce qu'il y a des choses qui, pour moi qui suis généraliste, c'est un peu compliqué. Donc, la chaudronnerie, la soudure et la menuiserie métallique. C'est un tout petit peu les trois choses qui font votre parcours. Je veux savoir, puisque de toutes les façons, le dénominateur commun, c'est le fer. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces trois activités-là?
Bon, déjà, faut savoir qu'un menuisier métallique est particulièrement souvent celui qui est apprécié au quartier.
Mm-hmm.
Oui, maintenant, on a le soudeur qui est aussi celui qui a subi une formation d'homologation. Maintenant, le chaudronnier, lui, c'est celui qui a fait un parcours scolaire.
Okay.
Donc, il a fait des études, mais il englobe entièrement souvent. Parfois, il a des compétences en soudure, les compétences en menuiserie métallique, vu que lui, il est beaucoup plus sur les formes, en fait.
Mm-hmm. Non. Ouais. Concrètement, pour qu'on soit plus pratique, qu'est-ce que le chaudronnier fait dans son métier au quotidien? Qu'est-ce que le soudeur fait? Et qu'est-ce que le menuisier métallique fait?
Bon. Déjà pour le chaudronnier, lui, il est beaucoup plus sur la mise en forme. Donc, il donne des formes, il crasse, il fait des développements.
Donc, si on veut les buses métalliques, c'est le chaudronnier?
Non, pas des buses. Bon, qu'est-ce que vous entendez par buses déjà?
On va dire quoi, les trucs...
Bon, les citernes.
Oui, si vous voulez.
Oui. Bon, pour les citernes, déjà, la forme de la citerne, oui, c'est le chaudronnier. Okay. Maintenant, le soudeur, lui, il vient juste pour souder.
Ah, d'accord, c'est lui qui colle.
Oui,
si on dit vulgairement au cadre.
En fait.
D'accord. Et le menuisier métallique, lui?
Bon, la menuiserie métallique, lui, elle est bien à part. Parce mm-hmm. qu'elle est beaucoup plus basée sur le découpage et le soudage.
Mm-hmm.
Vu que ce sont uniquement des formes cubiques, des formes simples, en fait.
Mm-hmm.
Ouais.
Donc, déjà, quand je revois durant votre parcours académique, jusqu'à l'obtention de votre BTS, est-ce que vous aviez déjà envisagé de faire de la menuiserie métallique? Ou pas du tout? Ça, c'est la force des choses, c'est le destin, c'est un peu tout ça.
Ben, je dirais que j'ai eu un CAP et après mon CAP, j'ai commencé à faire pendant les vacances des petits jobs dans un atelier de soudure où c'était particulièrement uniquement la menuiserie métallique.
Mm-hmm.
Donc là déjà, je m'imprégnais déjà des bases.
Oui. Et donc, qu'est-ce qui vous a décidé par la suite? Parce que vous avez quand même poursuivi des études, vous avez un bac, un BTS et tout ça. Au lieu d'aller dans les grands métiers, comme certains diraient, vous avez pris ce pan-là. Qu'est-ce qui vous a décidé?
Bon, déjà, je dirais, l'idée vient en partie de la classe de seconde. Parce que j'étais allé en vacances sur EDEA, parce que j'ai eu le CAP à EDEA. Je suis allé en vacances sur EDEA et comme coutumier, j'aimais toujours aller dans l'atelier de menuiserie. Mais il y avait un cronçon où il y avait plusieurs soudeurs.
Mm-hmm.
Bon, déjà, j'avais envie d'innover en fait. Mm-hmm. Que j'aimais beaucoup tout ce qui touchait dans la création, les dessins et autres. Bon, je me suis rendu compte qu'il y a trop de menuisiers et je ne pouvais pas entrer dans ce domaine. Il fallait vraiment que j'aie ma part.
Mm-hmm.
D'où l'idée est venue de commencer à faire des recherches sur des meubles qui sont faits à base de fer.
Mm-hmm.
Oui.
D'accord. Donc, c'est de là que tout est parti.
C'est de là où tout est parti. Où j'ai commencé à faire mes recherches à partir de seconde, première, terminale. Jusqu'en terminale, jusqu'après l'obtention de mon bac. J'ai réussi à réaliser un meuble, une balançoire suspendue.
Mm-hmm.
Oui.
On a mis la balançoire là-haut.
Bon, la balançoire, en fait, c'était un client. Comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos TikTok, j'ai débuté avec 500 francs.
Mm.
Oui.
500, on ramassait seulement le fer là.
Bon, quand j'ai débuté avec 500 francs, ça ne veut pas dire que c'est 500 qui a acheté le fer.
D'accord.
Mais 500, c'était vu que j'avais déjà assez mûri d'expérience, j'avais assez fait de recherches.
Mm-hmm.
Les 500 m'ont permis de juste utiliser des images nettes et poster sur Facebook.
Okay.
Où j'ai eu une cliente qui m'a contacté et après m'a demandé juste de lui faire un devis sur une liste de meubles qu'elle voulait.
Mm-hmm.
Après le devis, elle m'a fait une avance. D'où les 500 m'ont juste servi à la connexion, bien sûr.
Non, j'ai envie de dire que vraiment les techniciens qui ne chôment jamais, là, voici la preuve. Dès qu'on sait faire quelque chose, avant en attendant le diplôme, on est quand même capable de, on va dire quoi, de se débrouiller.
Oui.
Mais justement, vous avez poursuivi vos études jusqu'au BTS. Quand vous dites, après tout ce parcours-là, peut-être qu'on s'attend à ce que oui, vous rejoigniez des grandes entreprises pour être un très grand chaudronnier et que finalement, c'est véritablement vers la menuiserie métallique que vous vous dirigez. Est-ce qu'on ne vous regarde pas un peu en vous disant « oui, toutes ces études-là pour ça ?»
Je dirais que rejoindre des grosses structures, oui, j'ai voulu vu que j'ai postulé dans plusieurs entreprises. Mais comme c'est souvent très difficile lorsqu'on n'a pas une personne qui vous tient la main pour vous emmener, j'ai pas eu de la chance d'être recruté dans des grosses boîtes.
Mm-hmm.
Et je vais pas vous mentir, après toutes ces recherches, j'ai compris que je devais aller seul.
Mm-hmm.
C'est vrai que lorsque je me suis lancé, lorsque j'ai réalisé mes premiers meubles, j'ai eu un contact. Il y a une personne qui m'a contacté depuis l'Allemand qui m'a dit qu'il voulait travailler avec moi.
Oui.
Mais qui était aussi dans le domaine des meubles.
Mm-hmm.
Je préfère taire le nom.
Oui.
Bon, on a commencé à travailler ensemble. J'ai fait avec lui 1 an et 8 mois.
Mm-hmm. Je crois que je vois de qui il s'agit.
Oui. 1 an et 8 mois. Et après, j'ai décidé de démissionner, d'arrêter parce que le salaire ne suivait plus. On n'avait pas respecté les thèmes du contrat et autres. Bon, j'ai décidé de lâcher prise.
Surtout en faisant cavalier seul, vous auriez pu gagner plus. C'est ça aussi.
Ah oui.
Le calcul était très vite fait. D'accord. Mais est-ce que cette expérience-là, quand même, vous a servi pour faire vos armes dans ce monde-là de façon un peu plus professionnelle que d'être l'élève qui essaie de se débrouiller un peu au quartier?
Oui, oui. Pour être vrai, oui. Le parcours que j'ai passé avec eux m'a beaucoup forgé.
Mm-hmm.
Et aussi, les erreurs qu'ils ont commises m'ont aussi beaucoup aidé aussi à ne pas commettre les mêmes erreurs qu'eux, en fait.
Mm-hmm.
Parce qu'aujourd'hui, ils ont fermé, ils n'existaient plus, malheureusement. Mais bon.
Bon, on va dire que pour éviter de se retrouver sur le même chemin, ouais, vous avez un tout petit peu appris. Bon, maintenant, quand vous décidez de lancer véritablement Metal Décor, vous, c'est quoi votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce que vous dites qu'il faut qu'en regardant vos meubles, les gens se disent quoi? Que ça, c'est impossible que ce soit fait au Cameroun. C'est qu'est-ce que vous vouliez transmettre à travers ce que vous faites?
Exactement. En fait, déjà, ce que je veux transmettre, c'est beaucoup plus la vision du fait que beaucoup de personnes ont toujours regardé des meubles importés différemment. Alors que réellement, tout ce qui est réalisé ailleurs peut être réalisé ici et localement.
Mmh.
Et plus solide, plus durable que leurs meubles.
Oui.
Vu que le fer produit par nos sociétés ici est plus lourd comparé au leur.
Mmh.
Oui. Ce qui fait que la durabilité est plus accentuée vu que plus le fer est dur, plus le fer est épais.
Mmh.
Plus il met long sur le temps.
Mmh.
Et moins il est fragile en fait.
D'accord.
Donc réellement, lorsque j'ai commencé à réaliser des meubles, l'objectif c'était beaucoup plus attirer l'attention sur le Made in Cameroun.
Mmh.
Sur les réalisations qui sont effectuées ici.
Oui, complètement.
Ouais.
Justement, puisque vous avez parlé du fer, je veux qu'on fasse une petite éducation sur le fer. Parce que il y a fer et puis il y a fer. Des fois, nous qui ne sommes pas du milieu, on va te dire que ça, c'est le fer à béton. Ça, c'est le fer pour, je sais pas moi, pour faire les meubles, on utilise ce type de fer. Déjà, est-ce que le bon fer, il est nécessairement lourd?
Bon, pour être clair dessus, nous n'utilisons pas du fer localement.
Mm-hmm.
Nous utilisons de l'acier.
D'accord.
Parce que le fer, lui, c'est la matière première.
Oui.
Oui. Lorsqu'on prend la matière première, le minerai de fer, c'est lui qui est transformé jusqu'à ce qu'on obtienne du fer.
Mm-hmm.
Et après plusieurs procédés,
Les types de fer?
Oui, on a plusieurs souches, on a plusieurs ressorties de là.
Mm-hmm.
Bon, on a des alliages, on a l'acier qui est communément appelé fer ici. Bon, on préfère souvent l'appeler fer, nous tous on l'appelle fer, mais c'est normalement l'acier et non le fer.
D'accord. Donc, il y a l'acier, il y a les alliages et il y a le fer proprement dit.
Oui.
Donc, pour les meubles, la menuiserie métallique, on utilise l'acier.
Voilà.
Bon, je pense que tout le monde a compris parce que l'histoire de fer. Et puis, bon, il y a ceux qui utilisent, je ne sais pas si c'est moi qui vois mal, les fers qu'on utilise pour monter, je ne sais pas, pour faire le béton sur les parapins. Là, souvent, je vois, on plie ça. Je ne sais pas si c'est moi qui ne vois pas très bien. C'est ça?
C'est aussi de l'acier.
Ah, c'est aussi de l'acier.
Oui.
OK. Tellement... La fête du fait, ça va un peu me dépasser aujourd'hui. Donc, au début, pour le tout début, c'est quoi les différentes étapes? Parce que vous n'avez pas d'atelier, vous n'avez pas d'atelier, vous n'avez certainement pas les moyens pour avoir un grand local tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait? On squatte les ateliers des autres, on travaille à partir de la maison quand on gagne les marchés. Comment est-ce que ça se passe? C'était quoi les débuts de Metal Décor?
Bon, Metal Décor a commencé devant les chambres. Oui. Au début, quand j'ai recommencé à pratiquer, après que j'ai démissionné, quand j'ai recommencé à pratiquer, j'étais avec ma copine.
Mm-hmm.
Ouais. On a commencé à faire des vidéos où on réalisait des meubles devant une chambre.
Mm-hmm.
Bon, comme l'image de la femme est plus vendeur que l'image de l'homme, et qu'à l'époque aussi, j'avais un peu peur de m'afficher pleinement parce que je me sentais un peu... Bon, je me dis que je ne m'étais pas trop à la hauteur
photogénique
de me présenter pour... en fait.
Ok.
Bon, on avait mis... J'ai mis ma femme en premier. C'était elle l'image même de Metal Décor pendant plusieurs mois, pendant plus d'un an.
Mm-hmm.
Ingrid Matip, beaucoup de personnes l'ont connue sur le nom d'Ingrid Matip sur les réseaux sociaux, beaucoup plus sur TikTok.
Oui.
C'est par là que Metal Décor a vu le jour. Bon, après avoir exercé plusieurs fois, après nous sommes allés squatter un atelier, vu que quand on commençait déjà à avoir des meubles un peu considérables, on commençait à aller squatter un atelier à Bounabiri, chez un ami. Qui avec le temps, on a fait pratiquement un an avec lui. Avec le temps, il a trouvé que bon, on devenait déjà un peu trop
encombrant
pour lui. Et oh, il a décidé de dire que bon, il faut vraiment que je te cherche ailleurs. Oh, d'où on a pu prendre notre premier emplacement. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes quittés de là où on avait pris pour un autre un peu plus grand.
Mm-hmm. Bon. Heureusement, on a eu le temps d'avoir les moyens de prendre plus grand aussi.
Oui.
Ok, heureusement que les petits, je suppose qu'il y a beaucoup qui ont été témoins des petits débuts aujourd'hui, qui ne se disent pas aujourd'hui, mais celui-là, il vient d'où? On a vu le parcours.
Ouais.
D'accord, maintenant, c'est plus une entreprise Metal Décor qui confectionne des meubles de luxe ou alors tout le monde peut se sentir concerné? Parce qu'il y a le terme luxe qui revient souvent.
Oui, mais tout le monde peut se sentir concerné vu que ce n'est pas que du luxe. Les coûts sont vraiment abordables.
On va arriver sur la partie des coûts, monsieur Sonan, ne vous inquiétez pas.
On a des étagères murales qui sont abordables pour tout le monde.
Mm-hmm.
Et je me dis souvent aussi que le luxe lui-même n'a pas de prix. Et tout le monde peut s'offrir ce qu'il a besoin réellement.
Mm-hmm. D'accord. Ok. Du coup, justement, vous parlez des étagères murales. Quand on dit menuiserie métallique, peut-être dès qu'on entend menuiserie, on voit plus les meubles. Du coup, quelle est la palette de possibilités de ce que vous pouvez faire?
Quand on parle de menuiserie métallique, beaucoup plus se voient souvent des portails.
Mm-hmm.
Donc, ils voient des portails, ils voient des antivols, ils voient des trucs comme ça, en fait. Mais maintenant, de mon côté, en fait, c'est tout ce qu'on peut rencontrer chez moi. Il n'y a pas que des meubles en fer.
Mm-hmm.
Parce qu'avec le temps, j'ai pu acquérir plusieurs domaines. J'ai été autodidacte aussi sur plusieurs autres domaines, mm-hmm. comme la menuiserie.
D'accord, la menuiserie classique, là.
Oui, la menuiserie classique. Okay. La menuiserie moderne, en fait, avec des panneaux, des formes mécanisées. J'ai aussi appris de la tapisserie.
OK.
Donc, il y a des meubles qui sont entièrement faits en bois.
Ok.
Où on ne voit du tout pas de fer.
Mm-hmm.
On a aussi de la déco, en fait. Il y a
D'accord.
aussi la déco d'intérieur avec des PVC, avec des murs florals. Bon, avec plusieurs autres méthodes, en fait.
Mm-hmm.
Bon, on ne sont pas que accentués sur la menuiserie métallique.
En fait. D'accord, même si c'est le cœur de l'activité.
Si c'est le cœur, oui.
Enfin, les autres activités, c'était quoi? C'est parce qu'il fallait agrandir un peu la palette de possibilités pour essayer de gagner plus de marché, ou bien c'est parce qu'il y avait quand même, là, on vous demandait, est-ce que c'est pas possible aussi de faire ça?
Non, en fait, c'est parce que j'ai toujours misé sur l'innovation, sur la déco, en fait.
Mm-hmm.
Et vu que les meubles ne décorent pas seulement la pièce,
mm-hmm.
le meuble n'est pas uniquement la décoration.
Ouais.
Il y a aussi les murs qu'il faut habiller, il y a aussi... il faut faire parler la pièce, en fait.
Mm-hmm.
Et pour faire parler une pièce, il faut toucher tous les points.
D'accord. Est-ce que quand on est menuisier métallique, on fait facilement les autres types de meubles comme ceux en bois? Ça veut dire qu'on a automatiquement les capacités, ou ça a quand même été la transition, c'était quand même un peu chaud?
Pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais je me dis que c'est un don que j'ai de facilement apprendre, facilement m'adapter, peu importe le domaine que je vois devant moi.
D'accord, ce qui veut dire que vous saviez faire des meubles avec du métal, pour le faire avec du bois, vous avez juste fait vos tests et puis c'était bon du premier coup.
Bon, rien n'est fait du premier coup, ça c'est clair. Rien n'est fait du premier coup.
Mais le premier meuble complètement en bois, quand même, c'était exploitable, utilisable. Il y avait quand même tout. Qu'est-ce qui manquait à ces meubles-là avant d'arriver un peu, avant de perfectionner la chose?
Les finitions. Là, pour dire vrai, au début, il y a des finitions qui étaient touchées toujours.
Mm-hmm.
Bon, on a eu beaucoup de personnes qui nous conseillaient de beaucoup travailler sur les finitions, beaucoup de personnes qui nous conseillaient d'utiliser ci, d'utiliser ça. Bon, ça fait aussi en sorte qu'avec le temps, on a pu réellement comprendre ce qui manquait et ce qu'il fallait.
D'accord, ok. De toutes les façons, ça c'est un tout petit peu l'histoire, les débuts, comment ça s'est fait aujourd'hui. Metal Décor, c'est une marque qui est installée, qui est même déjà primée. Donc, le prix de tout ce luxe, de ce travail du métal et peut-être du bois aussi. On va en parler dans la deuxième partie tout à l'heure. On se retrouve dans quelques instants pour poursuivre notre échange avec notre passager du jour.
Le passager du jour dans Classeco.
Classeco.
Pause. Classeco se passe aussi sur notre application Volume 3 Cameroun. Volume 3 Cameroun.
Bienvenue en Classeco.
Aujourd'hui, justement, sur ces boissons-là, on est à quel niveau de quantité en termes de production?
À ce niveau, nous avons une capacité, nous pouvons faire jusqu'à 500 litres semaine.
Ah,
oui.
Quand même.
Oui, nous
toutes
avons.
Toutes liqueurs confondues ou par.
Non, on peut faire 500 litres, toutes liqueurs confondues.
Ok.
Oui, parce que nous avons conçu un alambic pour faire un peu moderne.
Mm-hmm.
Et du coup, nous sommes capables de produire cette quantité-là. Parce que nous pouvons distiller jusqu'à 2 ou 3 fois par jour.
D'accord. Bon, vous dites que vous êtes capable, ça veut dire que on n'a pas encore atteint le maximum de la capacité de production aujourd'hui.
Non, c'est l'alambic, en fait, qui détermine la capacité.
Mm-hmm.
Bon, l'alambic peut le faire. Maintenant, le marché n'appelle pas encore cette quantité-là.
D'accord. Pour l'instant, le marché appelle quel type de quantité?
Le marché, pour le moment, appelle autour de 200 litres le mois.
200 litres le mois.
Mm.
OK.
Retrouvez Nadine et Nanguet de lundi à jeudi entre 10h et 12h. 12h, 12h, 12h. Seulement sur Volume 3. Classeco, l'aéroport de l'économie, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Le passager du jour dans Classeco.
On poursuit donc notre échange avec notre passager du jour, Ernest Aubin-Sona, promoteur de Metal Décor CAM. La mention vaut la peine. Donc, depuis le début, on parle de meubles. Déjà, pourquoi l'histoire de menuiserie métallique, là, c'est dur comme ça. Je ne sais pas pourquoi c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est ce qu'il fait au quotidien. Avant qu'on arrive à la partie du prix, tous vos meubles, c'est plus des reproductions ou des créations?
Bon, parmi nos meubles, il y a des créations, mais il y a beaucoup plus de reproductions, en fait.
C'est ce que les gens demandent de plus?
Oui.
Donc quoi, il y a un catalogue pour les reproductions, bien chacun vient à son modèle et demande si tu peux faire ça.
En fait, la majorité des clients maintenant sont beaucoup plus sur Pinterest.
Mm-hmm.
Donc ils viennent avec les images qu'on reproduit.
D'accord. Ok, justement. C'est plus à la commande ou bien on fait des modèles d'exposition?
Beaucoup plus à la commande.
Non, c'est même pas. J'ai fait un salon aussi. Est-ce que vous pouvez acheter? On ne fait pas ça là-bas.
Non, pourquoi? Parce que le goût de tout un chacun varie.
Mm-hmm.
Et l'objectif, c'est faire en sorte que chacun ait à son goût.
Mm-hmm.
Donc, de telle sorte qu'on peut produire des salons, mais avec des couleurs qui ne peuvent pas plaire à tout le monde.
D'accord.
Vu que le choix, le goût est vraiment unique à mm-hmm. chacun.
Ok. Maintenant, justement, dans tout ce que vous pouvez proposer, niveau, je pense qu'on va être dans une fourchette de prix. De toute façon, on va me dire qu'en fonction du matériel, en fonction de la tapisserie, trois fois chic, en fonction, on connaît leur fonction là. Mais dans les meubles qu'on peut acheter chez vous, peut-être vous allez nous donner des exemples ou des types de meubles avec à peu près combien ça peut coûter. Est-ce qu'on peut venir demander juste une petite chaise haute? Est-ce qu'il faut absolument commander un salon de 5 places? Est-ce que c'est des meubles, je vois des petits meubles d'aménagement et tout ça là?
Bon, déjà, je dirais qu'il n'y a pas réellement un prix exact pour...
Pourquoi?
Il n'y a pas un prix exact pour tous les meubles.
Une table basse, c'est une table basse.
Oui, donc. Une table basse, c'est une table basse, mais les modèles varient.
Oh. Tous les modèles qui chauffent ici dehors, là.
Oui.
Si c'est une table basse, il y a les petites tables basses rondes qui viennent en deux compartiments, là.
Oui.
Ça peut coûter combien?
Bon, là, on peut être dans selon les dimensions, on peut varier entre les 40 et 60 000.
D'accord. OK. Donc, pour un salon de 5 places, budget minimum?
Bon, je ne vais pas donner un budget minimum, mais je vais donner un intervalle.
OK.
Donc, pour un salon de 5 places,
mm-hmm.
on peut aller de 200 à 500 000.
OK. Qu'est-ce qui fait qu'on peut aller de 200 à 500 000?
Le modèle.
Oh, le modèle sera seulement comment?
Bon, il y a des modèles...
Quoi, là, on tourne le fait, on fait les apostrophes et tout ça.
Non, en fait, c'est parce qu'il y a des modèles qui sont uniquement en bois.
OK.
Il y a des modèles qui sont vraiment, vraiment, vraiment... qui sortent très, très mal de l'ordinaire, qui sortent terriblement.
Donc, 200 000, c'est ce qui est en bois?
Non. Ce qui est en bois, même, ce qui est à 200 000, même, c'est un modèle très simple. Ce sont des modèles très simples, basiques, en fer même.
OK.
Oui.
Mais si c'est en bois?
En bois, justement, ce sont des clés qui sont un peu coûteux.
Ok. Le fer n'est pas censé être plus cher que le bois, ou bien comme ce n'est pas mon domaine d'activité, je comprends absolument rien.
Si. Mais maintenant, vu que nous ne sommes pas comme des menuisiers du quartier là, qui ont appris
sur le tas,
ce qu'on utilise en dessous est beaucoup plus la mousse pH,
mm-hmm.
ce qui fait que la mousse est vraiment chère sur le marché.
C'est pas le pH 7 que tout le monde utilise, ou bien il y a un autre
justement,
pH encore.
C'est ça justement, mais vous connaissez quand même le prix sur le marché.
Je vends la mousse. Je sais qu'aujourd'hui, tout le monde dit qu'il utilise des pH 7.
Non, mais
c'est quand tu achètes que tu vas savoir après.
Certains le disent, mais ils ne le font pas, en fait.
OK. Donc, il y a les... Comment est-ce qu'on appelle les meubles, là? Il y a des meubles de déco qu'on met dans les coins, des petites étagères, comme
oui.
ça. Je crois que j'ai vu ça sur vos comptes et tout. Ça, c'est à partir de...
Bon, pour les petites étagères, à partir de 15 000, on peut avoir des étagères chez nous.
D'accord. Qu'on peut fixer
bon,
sur...
Pour fixer les étagères murales, c'est beaucoup plus à partir de 8 500.
D'accord.
Bon, c'est pas très cher.
Ça veut dire que quand on paye, vous venez fixer aussi ou on donne chacun pour se débrouiller pour fixer. Vraiment, c'est important.
Bon, l'installation est toujours différente. Je pense que quand vous achetez même dans les grosses structures là.
Ouais, je ne suis pas dans les grosses structures. Je suis chez Metal Déco. Il faut donner toute l'information à ceux qui nous écoutent maintenant pour qu'ils ne pensent pas que comme j'ai payé là, on va aussi venir installer.
8 500, c'est le prix de du meuble en question.
Ok.
Mais maintenant, avec installation, compris la livraison, c'est 10 000 francs.
Ok. Maintenant, pour ceux qui veulent éventuellement commander, c'est quoi les modalités? Comment ça se passe?
Bon, pour les étagères, c'est souvent un achat direct.
Ok.
Bon, les petits meubles, c'est un achat direct. Maintenant, sur des meubles, des commandes, sur des meubles vraiment un peu spécifiques avec vos choix.
Mm-hmm.
Bon, généralement, selon le meuble, on demande souvent quand c'est une pièce, soit en 12 heures. Maintenant, quand c'est un ensemble, on peut souvent aller jusqu'à 7 à 10 ou 15. Bon, selon la quantité, en fait.
Mm-hmm.
Et les commandes se font par avance, soit 10% avance et 30% la livraison.
Voilà, c'est sympa que j'ai envoyé ma photo. Est-ce que vous pouvez me dire ça y est, payer après ça, là, c'est le renseignement?
Non. Fais pas ça.
C'est quoi ça? Vous aviez déjà fait et puis ça n'a pas marché?
Oui. En fait, dans nos débuts, on a eu à essayer de faire de telle sorte que, ok, on réalise par nos frais.
Mm-hmm.
Mais après, le client te dit, j'ai changé d'avis, je suis déjà allé acheter à Oka, je suis déjà allé acheter à tel endroit. Tu te retrouves avec un meuble que tu ne sais pas quoi faire avec. Et
mm-hmm.
un autre client revient, il te dit, ok, je veux le même meuble, mais avec une autre couleur.
Ouais.
Ou tu es obligé de redépenser pour changer la couleur encore. Donc, Pourquoi on demande toujours beaucoup plus aux clients de choisir leur couleur et pourquoi on ne fait pas aussi en stock?
D'accord, donc 70% avant, 30% là c'est quoi? C'est à la livraison ou c'est même avant qu'on vienne livrer les 30 derniers pourcents?
Bon, ça dépend. Si vous venez chercher directement dans nos locaux, il n'y a pas de problème, vous payez directement à la fin. Maintenant, si vous souhaitez qu'on vous livre, vous payez directement lorsqu'on vient vous livrer. Okay. Donc, ce qui est sûr, c'est après réception. Mais ça, c'est pour les personnes qui sont dans la ville de Douala.
Mm-hmm.
Maintenant, pour ceux qui sont hors de la ville,
ouais.
Non, désolé, mais une fois que j'ai filmé, je vous ai envoyé vos commerces pour qu'il est fini. Vous refaites le versement avant qu'on expédie.
D'accord, et l'expédition, c'est gratuit ou on paye?
Directement à la charge du client.
D'accord, ok. Donc, ne dites pas qu'il a fait mon meuble, il a refusé d'expédier. Je pense qu'après, pour les coûts d'expédition, ça peut varier selon la destination.
Oui.
Donc, en dehors de Douala, les meubles vont le plus souvent où? On reste au Cameroun, on va un peu à l'étranger.
Nos meubles vont déjà presque partout. Bon, on livre beaucoup au Gabon,
mm-hmm.
On part au Tchad, on a livré en Guinée. Oui.
Donc, ouais, ça veut dire qu'il y a l'argent qui rentre dans les caisses, M. Sonan. Il ne faut pas dire après que c'est dû. Donc, et justement, vous formez également.
Oui.
Ça se passe comment pour les formations?
Pour les formations, déjà, on préfère prendre des jeunes. Parce que des personnes déjà un peu âgées sont souvent difficiles à manier, difficiles à dire que bon...
Fais comme ça.
Ouais, fais comme ça, il va toujours tendance à vouloir faire la
que
tête.
Que moi, je fais comme ça.
Bon, pour les formations, on demande généralement 200 000.
C'est pour combien de temps?
200 000, c'est pour un an.
On vient mois. Tous les jours?
12 mois avec un mois de repos.
D'accord. 200 000, 12 mois, c'est pour apprendre. On apprend tout ou bien...
Tout. On vous apprend la tapisserie, on vous apprend la soudure et on vous apprend aussi la déco.
Non, à 200 000.
À 200 000.
Un an.
Un an. Mais nous, on conseille toujours de faire 3 ans pour
mm-hmm.
vraiment tabler tous les contours. Parce que ce qui est sûr.
Mais si on vient de l'enseignement technique quand même et qu'on a des petites bases, un an, ça peut suffire?
Non. Je sais ce que je dis. Non.
Ok.
Parce que moi, j'ai appris tout ce que je connais en pratiquement plus de 8 ans.
Non, mais si on fait un an quand même, on s'est déjà fait 2-3 tables basses, on part travailler un peu pour avoir l'autre 200 000 pour venir l'année d'après.
Ah, ça c'est clair, oui.
Voilà. Donc, on peut toujours découper, on peut venir un peu, on apprend, on part pratiquer un peu pour rassembler l'argent. Donc, on est encore en pleine rentrée scolaire. Peut-être que le parcours académique classique n'est pas fait pour votre enfant. Ne vous dites pas que tout est perdu. Il peut apprendre la menuiserie métallique. Et ma foi, pour le prix et la durée de la formation, je pense que si vous y réfléchissez bien, on ne perd pas au change, parce que quand on cherche des formations pratiques, on dit que va d'abord faire le cap, va d'abord dans le centre de formation. C'est souvent un peu compliqué. Il y en a qui aiment apprendre tout de suite comment on fait. Et je pense que c'est possible chez vous. Il y a un nombre limité d'apprenants par an ou bien on en prend autant que possible?
Non, on ne prend pas beaucoup. En fait, on limite souvent le nombre à 5 personnes. 5 personnes par an.
Mm-hmm.
Vu que réellement pour... transmettre des connaissances, plus vous êtes nombreux, peu vous comprenez. Alors lorsque vous êtes peu, c'est plus facile de toucher du doigt à tout un chacun réellement sur chaque meuble.
Mm-hmm.
Parce que là, vous n'allez pas travailler sur des échantillons, vous allez travailler sur des cas réels.
Okay.
Vous allez travailler avec nous sur des cas réels.
Et si l'apprenant rate en cours de route?
C'est pourquoi la formation est payante. Pour pouvoir rattraper les erreurs.
Ok. Oui. Ça se passe pour cette année, c'est plein déjà?
Non, il y a encore des places. Bon, on a encore 3 places parce qu'on a eu 2 personnes ici.
Ok. Donc, pour les parents qui se demandaient, mon enfant veut faire ça, peut-être que c'est une piste de solution qu'il va falloir exploiter. Maintenant, est-ce que la page, on va dire quoi, soudure, chaudronnerie, elle est complètement tournée ou de temps en temps, quand même, on arrive à avoir des marchés qui vous ramènent dans ce secteur-là?
Bon, déjà, la chaudronnerie, même, c'est beaucoup plus dans la fabrication des containers, ouais. Des cuves, des... Bon, non, fais pas dans ça.
Non, aujourd'hui, c'est une page que vous avez vraiment... Non, merci, vous en sortez avec les meubles métalliques, pas besoin.
Bon, je
ou bien, s'il y a un vrai marché, oui.
Non, mais je ne prends pas ces marchés parce que déjà, ce sont des marchés que je n'aurais pas des machines adéquates.
Mm-hmm.
Vu que je me suis déjà focalisé beaucoup plus sur l'ameublement,
oui.
Je préfère rester dedans pour éviter mes papiers.
D'accord. Maintenant, est-ce que quand on a travaillé autant, quand on essaye de se démarquer, recevoir ce prix-là qui concernait la sous-région pour... est-ce que vous y attendiez?
Non, ça jamais. On m'a appelé un jour, on me dit, voilà, vous avez été sélectionné pour participer au Sky Award. Et s'il vous plaît, veuillez nous envoyer vos informations personnelles et autres. Bah, moi aussi, je suis le coup comme ça, bah, j'envoie juste et sincèrement, j'ai pas mis la tête dessus.
Oui.
Après un soir, on me dit, vous êtes invité, veuillez vous rendre à Yaoundé. On me le dit un vendredi soir et je dois être à Yaoundé le samedi.
Ok.
Je prends la route le samedi à 14h, j'arrive sur Yaoundé à 18h et l'événement effectivement était à partir de 18h.
Mm-hmm.
Et bon, étant dans la salle pendant le déroulement, après lorsqu'on commence, on entre dans la catégorie meubles en fer, bah, j'entends métal décor, bah, surpris, choqué, bah, je m'attendais.
Pourquoi surpris, choqué si les meubles vont au Gabon, au Tchad et tout ça là?
Bon. Réellement parce que je vais pas vous mentir, mais il y a toujours cette vision là où dire je suis pas encore arrivé, j'ai pas encore atteint le niveau qu'il faut, je suis pas encore là où je souhaiterais être.
D'accord, mais quand même c'est le on a gardé le trophée là-haut. C'est quelque part à l'atelier ou bien on a mis à la maison.
Il est chez moi, en fait.
Non, c'est pas le témoin pour tous les clients. Le témoin pour vous, ça va être les meubles faits et tout ça. Jusqu'ici, ça se passe toujours bien avec les clients. Il n'y a pas de soucis en particulier au-delà des règlements des factures qui peut être compliqué des fois. C'était pas ce que j'avais commandé. C'est pas exactement ce que je voulais. C'est pas comme je pensais.
Si, toujours. Il y aura toujours des problèmes avec des clients. Ouais, ça, c'est clair. Le client est toujours... on ne peut pas avoir un client parfait. On ne peut pas être un technicien parfait de telle sorte que c'est 100% avec un rendement 100%. Il y a des clients qui envoient des images, des photos, des couleurs qui sont pas réellement... vu que la photo ne reflète pas réellement la couleur réelle.
Mm-hmm.
Après, il peut dire que bon, c'est pas la couleur que j'ai commandée et autres. Bon, il y a aussi des clients qui viennent après fabrication du meuble, disent que bon, le meuble a arrivé en pièce état et autres. Peut-être pour ceux qui ne sont pas dans la ville, pendant le transport, il peut y avoir des secousses qui créent des dommages et autres. Bon, il y a aussi des clients qui sont vraiment stricts. Voilà. Là, il y a des clients que même si tu secoues le ciel, tu ne vas jamais les satisfaire. Mais bon, ça, c'est réellement ça qui fait...
Le charme du métier.
Oui. Bon, si on ne rencontre pas ça, c'est qu'on ne travaille pas en fait.
D'accord. Aujourd'hui, la création de contenu occupe une bonne place dans le déroulement, dans la présentation de votre entreprise. Pourquoi c'était important pour vous de faire ça?
Réellement, pourquoi? Parce que Metal Deco a réellement vu le jour grâce aux réseaux sociaux, grâce à TikTok. Oui, et la majorité, je vais dire 80% de nos clients viennent des réseaux sociaux. Bon, maintenant, je vais dire 15 autres viennent déjà beaucoup plus par recommandation.
Oui.
Ok, vous avez fabriqué ceci pour tel, il nous a passé le contact. Et maintenant, on a les 5% restants qui viennent de Facebook, d'Instagram. Ouais.
D'accord, donc aujourd'hui, on y consacre quoi? Tous les jours, on crée du contenu ou bien il y a un jour qui est dédié? Comment est-ce que vous organisez tout ça avec le travail proprement qu'il y a à faire?
Déjà, j'avais essayé de vouloir poster tous les jours, mais avec le travail aussi, sincèrement, c'est pas évident. Donc, on fait quand même l'effort de produire du contenu de temps en temps. On passe pas une semaine sans créer au moins 3 vidéos. Oui.
Donc aujourd'hui, c'est impossible dans votre développement de faire ça.
Oui, ça c'est clairement possible.
D'accord, c'est le principal outil de promotion aussi.
Oui.
D'accord. En tout cas, comme nous, on l'a vu sur les réseaux sociaux, vous l'avez certainement vu aussi pour ceux qui sont des habitués de TikTok, il faut juste chercher Metal Decor, il y a encore le cam.
Point com.
Parce que si on enlève ça, je ne suis pas sûr que vous allez tomber sur la même entreprise. On va vous remercier, Monsieur Sona, d'avoir fait le déplacement, d'être venu nous parler de ce projet entrepreneurial. On ne parle pas souvent de menuiserie métallique, c'était important pour nous d'avoir ce type de profil-là pour vous donner une idée de ce que les Camerounais sont capables de faire. On espère continuer à observer de loin l'avancée vers le succès qui devrait être le vôtre, puisque de toutes les façons, quand on a déjà conclu la sous-région Afrique centrale, il faut seulement arriver en Afrique de l'Ouest, c'est pas ça?
Merci.
Voilà, on va marquer une autre pause dans cette émission. On se retrouve tout à l'heure et on ira au marché.
Le passager du jour dans Classico.
Un
après cette pause et d'abord faire un petit tour dans le temps avec cette chanson de Coda Citoni. On est de retour pour la suite de ce programme. C'est d'ailleurs la dernière partie. Il est un peu plus de 11h31 et il est temps pour nous de nous rendre au marché. J'ai envie de vous demander qui s'en sort les temps-ci avec le prix de la tomate. En tout cas, Vielingaya est allé voir de plus près ce qu'il en est.
Écomarché, tous unis contre la vie chère.
Je suis allé chez une commerçante du quartier récemment pour acheter les condiments nécessaires pour le spaghetti sauté. J'ai failli faire demi-tour parce qu'elle m'a présenté un tas de 4 tomates qui coûtaient 500 francs en raison de la hausse des prix du cajou, m'a-t-elle confié. En regardant cette quantité insignifiante vendue à un prix aussi élevé, je me suis demandé pourquoi cette hausse. Est-ce la faute de la production, du transport ou autre chose? Pour en savoir plus, j'ai décidé d'aller au marché de Lokpom. Sous un soleil torride, entre les cris des vendeurs et les embouteillages, je m'approche d'une vendeuse qui a devant elle plusieurs cajots de tomates rouges. Vanessa, vendeuse de vivres frais, me donne l'occasion de comprendre cette flambée des prix.
Pourquoi la tomate est si chère?
Il y a plusieurs problèmes, il y a plusieurs facteurs. Ça doit être que les agriculteurs n'ont plus assez de moyens. Il y a plusieurs problèmes. Il y a aussi les maladies qui attaquent les plantes. Oui, la vie chère, c'est partout. C'est pas seulement la tomate. Oui, c'est vrai, la tomate. Tomate est chère, mais le panier de la ménagère, nous ne nous en sortons plus. La tomate est chère.
Ça coûte combien actuellement?
Les prix sont standards. Il y a les jours que le cajou est à 15 000, 11 500, 12 500, 13 000. Les gens ne s'en sortent pas. La femme ne s'en sort pas. Le tas, c'est 500.
Combien de tomates?
5 tomates, 500.
Juste à côté d'elle, maman Hortense, qui vend elle aussi des vivres frais, me renseigne sur les contours de son activité.
Nous sommes surpris parce que très souvent, généralement, la tomate est chère à partir de décembre. En ce moment, si c'est cher, c'est à cause de la crise anglophone. Parce que quand dans les zones anglophones, comme Bouya, on ne permet pas que les planteurs partent au champ. Ils doivent sortir rien que samedi. C'est pour qu'on produise quoi? La zone anglophone est en souffrance. Et ce n'est pas bon. Ça affecte tout le pays. La tomate Bouya qui devrait bientôt être sur le marché, comme voilà la saison sèche qui vient, elle ne pourra pas être sur le marché. C'est impossible. C'est très impossible.
Et combien pour nous faire une tomate?
Actuellement, aujourd'hui, ça a baissé, c'est à 13 000. Avant-hier, c'était à 15 000. On va, on ne s'en sort pas. Nous les calibrons en soirée, on regarde dans les cajous qu'on a enfilé dans les sacs. J'attache, je scène avec un sac que j'ai fendu d'un côté pour mieux conserver, pour que les souris aussi n'en consomment pas. Et jusque-là, les souris fouillent dans les magasins.
Quand c'est cher comme ça, les gens viennent pour l'acheter.
Avec beaucoup de bagarres, il n'y a pas l'argent dehors.
Autour d'elle, les clients hésitent et discutent. Certains repartent avec un petit tas, d'autres préfèrent renoncer. Pour savoir comment le consommateur vit cette hausse, je me tourne vers une mère de famille, panier en main.
Comment vous réussissez à joindre les deux bois alors que la tomate est chère?
On achète la tomate en sachant, on mélange là. Vous appuyez sur la sauce, ma pour essayer de jongler. Bien sûr, automatiquement. Parce que là, je fais parce que c'est une fête, je suis contrainte. Mais à défaut de ça, je change de menu.
Non, impossible actuellement parce que la tomate, quand j'ai demandé au marché, on m'a dit que ça peut changer d'un moment à l'autre. Un matin, tu peux arriver que le prix a carrément baissé, comme tu peux arriver que ça a augmenté. Il y a deux jours, j'ai acheté la tomate de 500, c'était comme la tomate de 200 francs. Et il y a de ça, une semaine, j'ai acheté, c'était encore même pire encore qu'aujourd'hui. Donc, et on m'a dit que le cajou est déjà à 15 000 francs, donc je ne sais pas actuellement aujourd'hui combien ça peut coûter au marché. Ah oui, j'achète la tomate en fruit plus que la tomate passée en sachet. C'est deux mondes différents. Donc, c'est mieux d'avoir pour 100 francs en fruit que pour que la tomate en sachet. Parce que le goût est différent. Quand la tomate est chère, on achète la tomate, peu de tomates et plus de condiments. Donc, on associe les deux pour pouvoir avoir la quantité là.
La tomate est l'une des principales cultures du Cameroun. On estime une production annuelle d'environ 889 800 tonnes, cultivée par près de 329 000 exploitants, surtout à l'ouest, au centre et au nord-ouest, selon l'INS et le Minader en 2022. La tomate reste au cœur de nos sauces et de nos repas. Mais quand son prix s'envole, c'est les ménages qui en souffrent. Plus qu'un simple légume, la tomate est devenue un vrai indispensable pour nos repas.
Écomarché, tous unis contre la vie chère.
Merci beaucoup à Vialingea pour ce tour au marché. Et je pense que tout le monde est d'accord en ce qui concerne le prix de la tomate en ce moment. Si on peut, il faut changer de programme. À présent, on va parler de peinture parce que nous sommes allés à la rencontre de Bolo qui nous parle de son quotidien. C'est l'escale de ce lundi.
Escale dans Classe Éco.
Moi c'est Jesse Bolo, moi je suis peintre, décorateur. Hein. Quand j'ai fini mes études, j'ai tamponné un grand, alors il m'a amené dans les chantiers, il m'a appris la peinture. Du moins, regardez là que le premier domaine pour apprendre la peinture, c'est l'œil. La peinture c'est de l'œil d'abord. Avant de toucher le couteau ou bien toucher le rouleau, il faut d'abord avoir l'œil du travail. Avant ça, je travaillais dans les chantiers, j'étais manœuvre, tout. J'étais d'abord maçon. J'ai vu que la maçonnerie cassait tout, et quand moi je viens de travailler, ne casse pas tout. C'est que je suis retrouvé alors dans la peinture. J'ai fait une formation. J'ai fait une formation m'a pris que 3 mois. Non, j'ai pas fait une école. J'ai un gars au quartier qui m'a appris la peinture. Et c'est une peinture professionnelle. Vu que j'ai commencé à faire la peinture, c'est un bon métier, ça ne casse pas beaucoup. Et tu rentres vite, tu travailles. Bon, tu peux sortir à 7h, 9h, tu es rentré. Donc, c'est un métier qui ne casse pas trop le corps. Et cela, on me sait, c'est à 3 ans dans la peinture. En tant que peintre, mon rôle en tant que peintre, c'est un gars que tu peux me donner ta maison, que c'est gâté partout. Je remets ça au neuf, tout propre. Bon, ça dépend. Mais dans la peinture, la catégorie, c'est un client me demande que lui, tu es peintre, qu'est-ce que tu peux voir ma maison, qu'est-ce que me faire vivre la maison, je dis que oui. Bon, je veux voir le crime, je dis que pour faire vivre ta maison, il faut commencer par le lacage. Lacage, ça veut dire qu'on a tiré les enduits sur le mur. Les enduits sur le pentecôte, comme mélange, c'est un produit, comme là, il y a le ciment, pour rendre le mur lisse. Dès que tu as fini de rendre le mur lisse, là, le ponçage, tu passes au ponçage pour effacer les traits au mur. Après ça, tu peux maintenant passer ta première couche de peinture et puis tu finis par les clôtures, par les finitions. Maintenant, la maison devient impeccable. J'ai fait plusieurs chantiers. Depuis 3 mois que j'ai fait ça. Depuis mes 3 mois que j'ai fini ma formation, maintenant, je suis devenu professionnel. C'est pas maintenant 6 mois. À 3 mois dans les chantiers. Moi, j'ai gagné 10 chantiers. Moi-même personnellement. Dans plusieurs villes. Bouya, Bamenda, Kribi, Yassa, Melon, Koumbe. Moi, j'ai mes clients grâce au contact de mes grands. Qui m'appelle et me dit que oui, j'ai un gars qui veut un peintre. Je dis que ok. Moi, il m'envoie le créateur de peinture, je cours avec lui, si c'est bon, il m'envoie le dos du déplacement, il arrive au chantier, il fait le devis, il dépose. Dès que c'est bon, il m'appelle, il vient lancer le chantier. La majorité de mes clients, quand ils m'appellent, c'est que quelqu'un lui a parlé de moi, lui a montré mon travail. Alors, il est satisfait, c'est pour ça qu'il est là pour mon contact, pour me joindre, pour qu'il vienne améliorer ici et pour voir. Bon, il veut me tenter un peu pour voir comment, si c'est pas seulement les photos, le montage qu'on me fait, qu'on voit pour satisfaire de mon travail. À l'école, moi, je faisais études de médecine. Oui, je faisais la D puis la série D. Moi, je n'ai pas continué la médecine parce que manque de moyens. Mais je voulais vraiment faire la médecine. Le métier que je fais, mon métier de peintre me plaît parfaitement. Ce qui me passionne, c'est la peinture, c'est apprendre plus. Bon, je me rivalisais avec les plus forts dans mon domaine. Mes relations avec mes collègues, c'est la compétition. Bon, je suis là pour compétir avec eux, pour donner le meilleur de moi-même. Là, moi et mes collègues, on s'entend. Un métier de travail. Il y a eu le chantier, un collègue, il a gagné un chantier, il m'a devancé. C'est lui qui a bâti faire le chantier à ma place et ça m'a fait mal. Et c'est venu lui dire que bon, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand un chantier, c'est pas pour toi, il faut laisser la personne gérer son chantier. Oui, c'est vrai que c'est pas sa faute. Bon, je dois le laisser, je dois pas le garder en cœur. Je sais que c'est le client qui a demandé, tu lui demandes de venir effectuer. Du travail. Quand on n'a pas les chantiers, bon, on galère, on cherche les petits voilà pour quartier, on appelle tous nos contacts pour demander si on n'a pas besoin, si le mur n'est pas encore, la loi, si on n'attaque pas les murs, tout pour revenir encore, peut-être faire le traitement du mur, tout. Il y a les clients, là, les clients qui se plaignent. Les gens disent que non, tu as fait mon travail, c'est pas bon, voilà, nous, ceux qui attaquent. Dans nous, on est là pour lui dire que non, quand tu vois comme ça, c'est pas notre faute. On a travaillé sans constater que le mur avait une moisissure. Le gens, nous-mêmes, on investit pour rendre le client fier et satisfait. Et là, c'est le client, parfois, là, les clients malhonnêtes. Les clients, dès que tu finis le travail, ils ne veulent pas te payer. Parfois, les clients qui critiquent le travail, même quand c'est bien fait, critiquent pour ne pas pour abuser de vous. Puis, il y a plusieurs clients qui ne m'ont pas payé. Moi, quand un client ne me paye pas, je dis que, ok, moi, il laisse ça dans les mains de Dieu. C'est que quand il ne m'a pas donné, là, ici, là, c'est comme ça qu'il va faire. Un temps, il va chuter. Il va voir que, oh, c'est parce qu'il n'a pas payé le petit foyer que mes affaires ne marchent pas, c'est comme ça. Non, non, non. Pour un client, bon marché, c'est la manière de travailler qui amène le client vers toi. Nous, on fait les chantiers, parfois, on poste par les groupes. On met par les Facebook, WhatsApp, Instagram, tout pour avoir la clientèle. Oui, là, il y a plusieurs personnes qui sont formées au quartier. Aujourd'hui, là, d'autres qui s'en sortent, d'autres qui ne sont pas encore. Donc, d'autres qui ont commencé la formation, après, ils sont partis. Quand ils ont vu qu'ils ont commencé à tirer un peu les enduits, rouler un peu le mur, ils sont partis. Mais après, devant, ça les a calés. C'est pas un métier qui est facile, aucun métier n'est facile. C'est difficile dans ces métiers, sur les décorations qui durent, qui prennent le temps. Oui, le peintre, c'est la créativité. Le peintre doit pousser au client à aimer ce qu'il fait. Oui, tout ce qu'il me propose à mes clients, c'est ce qu'il me peut faire. Et si il propose à un client que je vais créer un truc, bon, s'il accepte, je crée. Si ça donne bien, s'il va aller, c'est bon. S'il ne va pas, on supprime, on recommence. À nos fois, si le client est satisfait, il peut vous dommager. Je dis que non, voilà un truc, arrêtez vos pouches avec, c'est comme ça. Ça dépend des chantiers. Si tu t'en prends un bon client, surtout dans ces métiers, ça dépend des clients. Il y a les clients qui sont durs, que quand tu gagnes le chantier, après tu sors perdant. Les chantiers, quand tu gagnes, le client est ouvert, là-bas tu peux t'en sortir. Les clients qui sont durs, quand tu lui dis que tel prix, il veut toujours discuter. Et quand lui met pas pour acheter, vraiment tu avais raison. Et on lui frappe encore plus, voir qu'il dépense plus d'argent que ce que vous donnez, ce que vous avez demandé. C'est ça. On ne refuse pas. Les clients sont faciles quand tu donnes ton devis. Même si tu mets le plus, ils te font le versement, ils te donnent en cash. Et tu vois, tu es situation à l'aise, tu gères bien tes gars, tu vois, à la fin du chantier, tu as 100% de bénéfices dans le chantier. La plus petite somme qui gagne dans le chantier, c'est 130 000. La plus grande somme qui gagne, 1 600 000. Non, pas pour moi. Bon, il peut, 1 600 000, c'est matière plus moins de vous que le client m'a donné. Que ça ait jonglé, et puis jonglé jusqu'à sortir avec même 600 000. Pour moi-même. Ah, ma famille dit que ça, c'est pas un métier ou ça, ce travail est paresseux parce qu'ils ne connaissent pas. Ah, nous, on est toujours fort, on dit que cherche alors le travail vous nous donnez. Et là, il ne veut pas travailler. On dit que non, moi, j'aime mon métier. Et je meurs quand même mon métier. C'est un métier que j'ai beaucoup aimé, apprécié. C'est un métier facile, c'est un métier que quand tu ne te casses pas trop. Je sais pas, quand tu finis ça, tu n'es pas trop fatigué. Mais là, les jours que quand le chantier est bousculé, tu dois forcer. Tu dois. Bon, tu vas travailler sans dormir, les trucs. Pour satisfaire le client, pour que le client, si tu donnes un délai à un client, il faut respecter le délai. C'est ça qui fait que le client a plus confiance à un peintre. Ça dépend des chantiers. Si on te donne peut-être un studio modèle, peut-être chambre, douche, salon, ou par soi même 4 jours, 5 jours, tu peux livrer le chantier. Et j'ai toujours respecté mon devis. Mais encore, il donne 3 jours, c'est 3 jours. Si il donne une semaine, c'est une semaine. Le conseil que je dois donner à les jeunes comme moi, que c'est le travail qui paye. Voilà, la vie, il ne faut pas être par ici, il ne faut pas rester au quartier. Tu attends que nous, on va venir te donner 500 000 francs. Non, c'est pas normal. Il faut se battre dans la vie.
Escale dans Classeco. Tout savoir sur les dernières innovations dans Classeco.
L'innovation de ce jour nous permet d'apprendre la pisciculture. Elle s'appelle tout simplement Ictis. C'est désormais disponible au Cameroun grâce à son distributeur officiel Fishtech AI. Avec Ictis, dont vous apprenez la pisciculture 100% en ligne avec des cours illustrés, des quiz interactifs, des révisions illimitées, des ressources et actualités sur le secteur aquacole. La plateforme est disponible sur le web ou via Fishtech AI, accessible sur téléphone, tablette et ordinateur. Maintenant, ce qui concerne l'économie sur le continent, prenons la direction des Comores où créer son entreprise reste une course d'obstacles entre manque de financement, lourdeur administrative ou encore accès limité au marché public et à l'information nécessaire. Pourtant, des efforts sont réalisés par les autorités et la jeunesse fourmille d'idées. Incubateurs, banques et bailleurs mettent en avant de nouveaux outils pour accompagner la génération montante. Africonomie, c'est avec le concours de RFI.
Ce programme vous est proposé par notre partenaire RFI, Radio France Internationale, la radio du monde.
Premier incubateur du pays, InnovLab accompagne déjà plus d'une centaine de jeunes, mais les difficultés sont toujours présentes. Nadjoa Saïd Mohamed Jalim est assistante de direction à InnovLab.
L'impact que nous attendons, c'est de pouvoir accompagner ces jeunes à faire émerger des idées intéressantes et innovantes. Nous accompagnons ces jeunes à travers trois grands volets, le renforcement de capacités, mobilisation de ressources et coaching en entrepreneuriat. Certains sont déjà en activité et d'autres en cours de préparation de lancement. Selon leur propre témoignage, je peux dire que c'est avant tout la lourdeur administrative et ensuite le manque de financement. C'est ce qu'ils mettent souvent en avant.
L'accès au crédit reste un verrou. Amal Hussein, directeur commercial d'Exim Bank, annonce de nouvelles opportunités.
C'est au niveau des garanties parce que ce n'est pas toute entreprise qui a la capacité et la possibilité d'offrir les garanties qui sont acceptées par les banques. Nous offrons d'autres possibilités à ces sociétés-là de pouvoir avoir accès à des crédits, notamment à des crédits à court et moyen terme. Nous avons différents produits. Il y a d'abord le financement classique avec des avantages très compétitifs. Nous offrons également un nouveau produit qui est le collateral management qui permet aux petites et moyennes entreprises de pouvoir venir chez nous demander des prêts sans pour autant utiliser les garanties classiques qui sont les hypothèques.
Laurent Chabru, directeur pays d'Expertise France, dit avoir accompagné 150 entreprises, dont beaucoup portées par des jeunes, et formées plus de 1000 jeunes. Et à l'en croire, le défi dépasse la question de l'argent.
L'employabilité de la jeunesse est une contrainte majeure pour l'économie et ça fait l'objet pour nous d'un projet à part entière, Comore Initiative. Nos objectifs en fait sont simples, c'est mettre en valeur les personnes, les projets, les entreprises que nous accompagnons au quotidien dans le cadre de la mise en œuvre de nos projets de coopération internationale. Montrer que nos porteurs de projets font des choses concrètes et les exposer pour que ils puissent démontrer leur savoir-faire.
Malgré les obstacles, un tissu entrepreneurial émerge. Le défi reste donc à transformer l'énergie et les idées de la jeunesse en moteur d'emploi stable et de croissance. Abdelham Zembaba Mouroni, RFI.
Ce programme vous est proposé par notre partenaire RFI, Radio France Internationale, la radio du monde.
Merci à tous d'avoir été des nôtres pour ce premier vol de la semaine. Classico pour aujourd'hui, c'est déjà terminé. Au plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau vol en Classico.
L'émission que vous venez d'écouter est une rediffusion.
Trouve tes émissions préférées à toute heure.
Que ce soit le temps que ça prendra, je vous retrouverai
sur volume3media.com.